Courrier cadre, l'entretien.
Christophe André, spécialiste de la psychologie des émotions mais aussi des troubles anxieux et dépressifs, a été l'un des premiers médecins français à proposer à ses patients la méditation laïque. La consolation a-t-elle sa place en entreprise? Quelle importance accorder au réconfort, à l'attention aux autres ou encore à la méditation au travail? Le psychiatre apporte des réponses apaisantes. Un entretien réalisé par Stéphanie Condis pour Courrier cadre.
Bonjour Christophe André,
bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ici jusqu'à nous dans notre studio d'enregistrement. Donc nous vous recevons en tant que psychiatre spécialiste de la psychologie des émotions et des troubles anxieux et dépressifs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir votre regard porté sur le monde du travail et les relations qui s'y jouent. Et à commencer par votre actualité, qui est votre dernier livre « Consolation », celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, qui est paru en octobre dernier dans sa version illustrée. Et donc ma première question va faire le lien entre votre livre et le monde du travail. Est-ce que c'est le rôle des managers de consoler?
Ah, à première vue, je serais tenté de dire non, car en tout cas, ce n'est pas leur rôle dans l'exercice de leur métier de manager, parce que si on regarde ce qu'est la définition de la consolation, c'est un acte privé, finalement, un acte intime, par lequel on s'efforce de faire du bien à quelqu'un qui est dans la peine, dans l'adversité, quand on ne peut pas changer sa situation. Alors les managers, on attend d'eux quand même qu'ils puissent agir un peu sur les situations professionnelles. Donc à première vue, non, j'aurais tendance à répondre que ça n'est pas une idée adaptée au monde de l'entreprise. Après, en y réfléchissant, la consolation, elle pose un problème beaucoup plus vaste. Elle pose le problème de ce que nous pouvons faire quand quelqu'un est en situation d'échec ou d'impuissance et qu'on n'a pas de baguette magique. Puisque vous savez, l'essence de la consolation, par exemple, si je console un ami endeuillé, je ne peux pas ressusciter la personne disparue, mais je ne veux pas le laisser seul dans sa peine. Si je console une amie divorcée, je ne peux pas faire revenir le conjoint, mais je comprends bien que je suis là pour la soutenir, lui donner envie de tenir bon, de continuer de croire en la vie et toutes ces choses-là. Et je pense que malheureusement, il existe aussi dans l'entreprise des situations face auxquelles, au moins dans l'immédiat, au moins sur le moment, il n'y a rien à faire, quoi. Je ne sais pas, alors je ne suis pas un expert, je suis désolé, je vais peut-être dire des bêtises, mais on a perdu un marché alors qu'on s'était beaucoup investi, ou il y a eu un conflit qui semble irréparable sur le moment, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour la personne qui est affectée par cette situation face à laquelle elle se sent impuissante? Donc peut-être qu'il y a un espace pour la consolation dans le management et puis dans l'entreprise en général, hein, pas seulement des managers pour leurs collaborateurs, mais ça peut aussi se faire entre collaborateurs, bien sûr. Et j'ai souvent constaté dans le milieu de l'entreprise, même si je n'ai jamais travaillé dans des vraies entreprises, à part l'hôpital, qui est un monde très, très particulier, qu'un élément central qui faisait le bonheur des gens à aller au travail, finalement, c'était ce qu'on appelle, d'un terme trivial, la bonne ambiance de travail. C'est de me sentir en sécurité avec mes collègues, me sentir en sécurité avec mon encadrement. Ça ne veut pas dire qu'on va tout me passer, mais ça veut dire que si je suis dans le pétrin, si je suis en échec, si j'ai du mal, si ça ne va pas, je peux compter sur les autres. Je peux compter sur leur aide concrète pour m'aider à affronter les problèmes, mais je peux aussi compter sur leur réconfort. Alors d'ailleurs, peut-être, finalement, je pense que le mot pour désigner la consolation en entreprise, c'est peut-être plutôt réconfort. Et là, quand on dit « est-ce que c'est le rôle des managers de réconforter ?» Ben ouais. C'est le rôle de manager de réconforter. Leur rôle, c'est de féliciter quand il y a du succès, c'est d'informer quand il y a un peu de flou, c'est de diriger aussi quand il y a du flou, et puis c'est de réconforter quand les efforts qu'on a faits n'ont pas abouti. Et au fond, en parlant avec vous, je m'aperçois que ce terme consolation, il est trop connoté psychologie morale, peut-être, pour l'entreprise, qui n'a pas à trop s'encombrer, je pense, de ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'entreprise a besoin de psychologie, mais n'a pas besoin de surpsychologiser les rapports entre personnes qui y travaillent. Et donc, ouais, j'ai mis très longtemps à répondre à votre question, mais je pense que sous l'appellation réconfort, oui, la consolation a sa place en entreprise.
Du coup, qu'est-ce que vous appelez surpsychologiser ?
Surpsychologiser, alors je devrais peut-être pas dire ça, je suis psychiatre, je devrais me réjouir chaque fois qu'on fait appel à des concepts de psychologie, mais pour faire simple, il me semble qu'on est passé d'une période, d'un âge où on ne tenait pas assez en compte la souffrance psychologique, les difficultés psychologiques, à un âge où on en tient presque trop compte, ou en tout cas on le met trop en avant. Un petit exemple, moi dans les informations, par exemple, chaque fois qu'il y a un événement un peu traumatisant pour des gens dans une école, etc., la première information, c'est on a envoyé une cellule médico-psychologique, fait comme si c'était le truc le plus urgent. Alors que on a des études montrant que, dans un premier temps, il ne faut pas emmerder les gens avec ça. Nous, on avait conduit, il y a très très longtemps, on était les premières équipes françaises à avoir conduit des études sur l'assistance psychologique aux chauffeurs de bus agressés. C'était dans les années 90, donc ça fait, c'était au siècle dernier. Et on voulait voir si, quand un chauffeur d'autobus de la RATP en région parisienne avait été victime d'agression, lui proposer tout de suite une assistance psychologique pouvait être une aide et une prévention des séquelles psychotraumatiques, parce que parfois c'était des agressions un peu dures à digérer. Et on s'était aperçu que non, qu'il ne fallait pas le proposer systématiquement, qu'il fallait être flexible, que chez certains c'était important et nécessaire, et que chez d'autres c'était presque contre-productif, qu'on pouvait finalement donner trop d'importance à quelque chose qui se serait cicatrisé tout seul. Donc ça, c'est un exemple. Et puis après, oui, fréquemment, moi j'ai le sentiment que parfois il y a des conflits entre certaines personnes ou des gens qui n'arrivent pas à accomplir des choses qu'on attend d'eux, et que au lieu d'aller chercher systématiquement du côté de la psychologie, on devrait chercher du côté de la clarté, de la définition des tâches, du côté du feedback qu'on a donné ou qu'on n'a pas donné, du côté de choses qui n'appartiennent pas à la psychologie au sens large, mais plutôt au management, sauf à dire que le management n'est que de la psychologie, ce que je ne crois pas. Un autre exemple, vous savez, alors je sors un peu du champ de l'entreprise, mais peut-être ça me permet d'être plus clair, c'est les problèmes avec les enfants. On a de plus en plus d'enfants que les parents amènent chez les pédopsies. Des problèmes de discipline, d'addiction aux écrans, de négligence, ils n'ont pas envie de travailler à l'école, enfin bref, des problèmes de gamins, quoi, il y en a toujours eu, mais qui prennent des proportions terribles. Et beaucoup de mes collègues pédopsies me disent, mais au fond, ces parents nous amènent leurs enfants persuadés que leurs gamins ont des problèmes psychologiques. Ils n'ont pas de problème psychologique, ces enfants. Ils ont des problèmes éducatifs. C'est-à-dire, j'explique aux parents qu'il y a de la psychologie partout, mais ce n'est pas plus là que simplement, c'est que vous devez revoir votre façon d'éduquer vos enfants. Vous devez apprendre à dire non. Vous ne devez pas avoir peur de frustrer vos enfants. Vous devez être vous-même cohérent. Vous devez être vous-même un bon modèle avec les écrans. Si vous voulez que vos enfants soient moins sur leurs écrans, ben, il faut leur montrer qu'est-ce que c'est que vivre moins sur ces écrans. Et voilà, donc, je fais des réponses très longues à vos questions, mais pour dire que c'est ça, pour moi, la surpsychologisation. La psychologie, c'est un truc génial. Ça nous permet de piger beaucoup de choses, d'éviter beaucoup de bêtises, mais il y a aussi des domaines qui ne relèvent pas de la psychologie, qui ne relèvent pas que d'elle, ou en tout cas pour lesquels la psychologie n'est pas la priorité.
Oui, puis en plus, ça amène à considérer des cas de manière individuelle ou deux personnes face à face, alors que parfois, les raisons de tension peuvent venir, comme vous le disiez, d'une structure en fait qui pose problème, d'un cadre général, éventuellement d'un mode de management. Donc, voilà, ça ne vient pas des individus parfois, mais du collectif aussi.
Absolument. Bon, on avait ça un moment pour le stress au travail, effectivement. Donc, le stress au travail, il relève à la fois de la personne. Elle a des choses à prendre en charge à titre privé, individuel, mais aussi d'un système qui parfois est mal foutu et donc génère de par lui-même du stress.
Et peut-être que l'une des clés, alors à ce moment-là, et qui rejoint aussi le réconfort d'ailleurs, c'est l'écoute et l'attention qui est portée aux autres pour déceler justement d'où viennent vraiment les tensions ou les problèmes.
Oui, oh ben l'écoute, de toute façon, c'est l'oxygène, hein, de la relation. C'est-à-dire une, une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une organisation familiale, au travail, un service, une unité, une entreprise, dans laquelle il n'y a pas d'écoute, mais de vraie écoute quand même, de temps consacré à ça, de temps consacré à prendre des nouvelles de l'autre, à essayer de comprendre quelles sont ses difficultés, c'est une organisation qui va très rapidement dysfonctionner, bien sûr, dans laquelle les souffrances ne vont pas être expliquées, comprises, partagées, et donc prises à plusieurs, quoi, solutionnées à plusieurs, et bien sûr, on a presque honte hein, de dire que la parole, l'écoute sont des fondamentaux, tellement ce sont des lapalissades, mais voilà, parfois on voit que... Le plus triste d'ailleurs, c'est quand on voit que les problèmes d'écoute ne relèvent pas d'une mauvaise volonté ou d'une incompétence des gens, mais du manque de temps. Une fois de plus, on a ça de manière typique dans cet univers que je connais bien, qui est le monde du soin, à l'hôpital, avec des soignants qui n'ont plus le temps de s'asseoir au pied du lit du patient et de passer un quart d'heure à rassurer la vieille grand-mère, le jeune homme anxieux, déprimé. Et on sait que le fait de passer un peu de temps pour réconforter, rassurer, parfois juste informer, expliquer, écouter un peu, mais qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les frustrations, ça remplace un tranquillisant, un somnifère et des heures et des heures de stress. Donc c'est tout ça qui est à repenser. Alors si ça, c'est faire de la psychologie, ok, je veux bien prendre en compte le côté humain, c'est faire de la psychologie, allons-y gaiement, mais pas trop de théorisation ni de psychologie à la place des questions, des réflexions sur l'organisation adaptée du travail.
Alors dans votre livre Consolation, vous avez aussi toute une partie sur l'auto-consolation. Ça aussi, c'est à titre personnel ou professionnel. Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut pratiquer à bon escient ?
Oui, ces notions d'autoconsolation, elles m'ont beaucoup intéressé en écrivant ce livre, puisqu'a priori, la plus belle, la plus forte, la plus importante des consolations, ou des réconforts, c'est celle que je reçois d'autrui. Quand je suis en détresse, que quelqu'un ou que plusieurs personnes viennent vers moi, me consacrent du temps, de la bienveillance, soient prêtes à m'aider, rien ne remplace ça, vraiment c'est extrêmement précieux. Après, je ne peux pas passer ma vie dans les bras des gens, je ne peux pas passer ma vie à me reposer sur leur aide, sur leur présence, sur leur bienveillance. Et donc, à un moment donné, malgré mes blessures, malgré mes échecs, malgré mes doutes, je vais devoir continuer d'avancer. Et à ce moment-là, quand je serai un peu vacillant, il va falloir que je m'auto-console, que je m'auto-réconforte. Et voilà. Et parfois, alors ce qui nous autoconsole tous, quand j'ai écrit ce livre, j'ai beaucoup interrogé, j'ai regardé la littérature scientifique, j'ai parlé autour de moi, etc. La plupart des gens se consolent en se baladant dans la nature, se consolent en s'adonnant à leur passion, du bricolage, du jardinage, faisant de la musique. Ils se consolent parfois par la prière, par la contemplation, par l'art. Au fond, ce sont toutes ces petites choses que nous faisons pour nous faire du bien, dont nous savons qu'elles ne régleront pas le problème, mais dont nous savons qu'elles vont nous permettre de respirer un petit peu mieux. Alors ça, c'est plus important qu'il n'y paraît, parce que pour beaucoup de personnes, et je pense beaucoup de personnes notamment en entreprise, qui, par exemple, le profil des personnes qui souffrent de burn-out, qui est un problème majeur depuis quelques années en entreprise, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui sont en déficit d'autoconsolation et d'auto-bienveillance, c'est-à-dire qu'elles sont assez souvent consciencieuses, elles veulent bien faire, elles sont confrontées à une masse de travail importante et à un moment donné elles commencent à craquer, il y en a trop ou elles s'y prennent mal, ou bref, en tout cas elles sont débordées, submergées, et à ce moment-là, au lieu de se dire ok, ce problème-là, tu n'arrives plus à l'affronter là, et donc que tu travailles une heure ou 10 heures, donc maintenant il faut te restaurer un peu, te faire du bien, te réconforter, il faut avoir de la bienveillance pour toi, il faut t'auto-consoler, t'auto-réconforter, etc. Et Moi, avec les patients dont j'ai eu à m'occuper qui souffraient de burn-out, ce qui m'a toujours frappé, c'est ce petit moment où on s'aperçoit que lorsqu'ils auraient des instants où ils pourraient en profiter pour se reposer ou pour récupérer, ils remplissent, s'auto-consoler, se faire du bien, ils remplissent ces moments par du travail, qu'ils estiment être du travail en retard. Le soir, ils font leurs mails, qu'ils estiment être des mails en retard, au lieu de se dire « ça fait chier tous ces mails, j'en peux plus, je ne vais pas répondre, et puis on verra bien, enfin je choisis ceux auxquels il est vital de répondre, et tous les autres, voilà. Voilà, au lieu de se reposer le week-end, ils font leur dossier en retard, etc. etc. » Alors, ça nous arrive à tous de devoir faire ça, des coups de feu au boulot, c'est pas ça qui crée le burn-out. C'est quand c'est un système continu et que j'ai intériorisé et dans lequel j'oublie de me faire du bien finalement, de prendre soin de moi, de prendre soin de la machine et du coup je la pousse dans le ravin, quoi. Je la pousse à la surchauffe et à l'explosion.
Et là, ça m'amène à justement évoquer votre livre qui est paru en 2006, « Imparfaits, libres et heureux », qui est sous-titré « Pratique de l'estime de soi ». Ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, vraiment. Et même quand on n'est pas en burn-out, mais justement à tout moment.
Oui. L'estime de soi, c'est une dimension essentielle, effectivement, pour chacune et chacun d'entre nous. Et ce livre avait été un énorme best-seller, même à l'étranger, et je crois que c'était en partie lié à son titre, Imparfait, libres et heureux. Et à l'époque, mon éditrice, Odile Jacob, était un peu inquiète. Monsieur Christophe, on ne met pas de termes négatifs dans un livre de psychologie, quoi. Et je disais, Odile, ouais, mais les personnes que j'aide, moi, mon boulot, c'est de leur expliquer qu'elles ne pourront jamais être parfaites, faire un travail parfait, être des parents parfaits, et qu'il faut qu'elles fassent de leur mieux. Et puis qu'après, elles lâchent un peu prise. Voilà. Et ce que j'expliquais dans ce livre, Imparfaits, libres et heureux, c'est qu'en fait, dans ces dimensions de l'estime de soi, elle a longtemps été mal comprise comme étant seulement la nécessité de voir ses bons côtés, la nécessité de se valoriser, la nécessité de reconnaître ses qualités, ce qu'elle est, effectivement. Mais elle n'est pas que ça. Et en fait, dans la pratique, les personnes qui ont une bonne estime de soi, ce ne sont pas des personnes parfaites, ce n'est pas des gens qui n'ont que des qualités, que des succès, que des victoires, c'est des gens qui savent en quoi ils sont bons, qui le reconnaissent, qui ne sont pas gênés d'en parler, de dire « voilà, moi je me débrouille plutôt bien dans tel ou tel domaine », qui ne sont pas gênés non plus de reconnaître leurs limites ou leurs lacunes, donc de se reconnaître imparfait, et surtout qui ont cette capacité d'auto-réparation et de bienveillance envers eux-mêmes. L'estime de soi, ce n'est pas juste se valoriser, voir ses côtés forts, ses côtés positifs, ses capacités, etc. C'est aussi prendre soin de soi quand on est blessé, quand on est en échec, quand on se trouve incompris, malheureux, etc. Et là, ne pas se punir, ne pas se culpabiliser, ne pas s'agresser, ne pas s'en vouloir, parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, les comportements auto-punitifs où au fond j'ai raté quelque chose et au lieu de me poser, de me faire un peu de bien, d'aller parler avec des copains, d'aller marcher dans la nature, d'aller faire un peu de sport, je me remets au boulot pour tenter de rattraper, d'effacer. Une fois de plus, parfois il faut le faire, mais avec discernement. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question sur Imparfaits, libres et heureux, c'était un titre, ce qu'on appelle dans l'édition des titres programmatiques. On annonce un programme. Vous avez le droit d'être imparfait. N'oubliez pas votre liberté, n'oubliez pas votre bonheur. Fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux. C'était un peu la devise du bouquin.
Ça pourrait être une programmatique de management, de forme de management.
Ouais. Faire de son... Moi je pense que ça pourrait être une programmatique de management. C'est-à-dire, c'est la métaphore qu'on utilise aussi en méditation du tireur à l'arc. Quand on veut expliquer aux personnes ce que peut être le stress du succès ou du résultat, on leur parle de cet art du tir à l'arc japonais. Et ce sur quoi insistent tous les maîtres, ils disent quand un archer veut atteindre sa cible, il ne faut pas qu'il se dise « tu dois atteindre ta cible », mais qu'il se concentre sur le mouvement. La quête de perfection, c'est pas l'obtention du résultat, c'est faire exactement tout ce qu'il faut faire pour avoir une chance d'atteindre le résultat. Parce que ma flèche, elle atteindra sa cible, bien sûr, si je fais le mouvement le plus proche de la perfection possible, mais aussi à condition qu'il n'y ait pas un coup de vent brutal, qu'il n'y ait pas un bruit soudain. Voilà, tout ça, ça ne dépend pas de moi. Et donc, le travail, je crois, qu'on a à accomplir, c'est on fait vraiment de son mieux sans se soumettre à l'obligation du résultat, mais l'exigence maximum, c'est fais vraiment aussi bien que tu peux. Et dans ces cas-là, statistiquement, le résultat finira par arriver. Alors, je ne sais pas si c'est un bon message de management. Peut-être qu'il y a des managers qui préfèrent dire « le résultat est obligatoire ». Et peut-être, dans certains cas, l'est-il. Je ne sais pas quand... Mais c'est compliqué. Par exemple, moi, j'ai longtemps joué au rugby. Et c'est vrai que quand vous jouez au rugby, vous voulez la victoire quand même. Vous ne voulez pas la défaite. Hein, mais ce que vous comprenez rapidement, c'est que si vous êtes trop obsédé par le fait de gagner à la fin du match, les périodes du match où l'adversaire est plus fort que vous, vous bouscule, vous marche sur la tête et commence à prendre 10 ou 15 points d'avance, cette obsession de la victoire peut tout à coup vous décourager. Vous voyez votre objectif s'écarter et vous dites « c'est foutu, j'y arriverai pas ». Et là, il vous faut revenir à l'obsession du geste juste. Vous dire « écoute, tu ne sais pas ce qui va se passer là pour l'instant ». Chaque plaquage, tu démolis le mec. Chaque passe, tu restes bien concentré sur la passe que tu vas faire. Et là, j'ai une chance, peu à peu, de revenir dans le match. Donc, voilà. Alors, tout ça, une fois de plus, je ne sais pas si, dans quel contexte ça peut s'appliquer en entreprise, mais peut-être plus souvent qu'il n'y paraît. Ouais.
Et ça fait penser justement aussi à la méditation qui amène à se recentrer, ouais. Et en tout cas à ne pas être dans le futur ou dans le passé, mais vraiment dans le présent, quelque part.
Oui, ça a été la révolution qu'a apporté l'introduction de la méditation dans le monde de la psychologie. Mais vraiment, hein, vraiment, ça a été une révolution. Nous, on a été les premiers en France à proposer des expérimentations et puis des thérapies basées sur la méditation dans le service universitaire où j'exerçais, à l'hôpital Sainte-Anne, hein, le service hospital universitaire. C'était en 2004, donc ça fait déjà un moment maintenant. Et à l'époque, c'était un peu inquiétant quoi, pour les gens de se demander ce qu'on fabriquait avec ça. Mais bon, c'était une forme de méditation laïque, c'était une forme de méditation validée déjà par des études scientifiques donc qui ont été multipliées depuis. Et c'est donc cette méditation qui s'appelle la méditation de pleine conscience qui consiste à apprendre à poser notre esprit dans l'instant présent. Et chaque fois qu'on voit qu'il vagabonde dans l'avenir, dans le passé, donc dans les projets ou les inquiétudes, ou bien dans les regrets, dans les ruminations, on dit ok, non, là pour l'instant, reviens à l'instant présent. De ton mieux, observe ta respiration, observe l'état de ton corps, rends-toi présent au son. Si tu as des pensées, regarde-les, mais ne te laisse pas happer par elles. Ça paraît tout simple, c'est simpliste même, et pourtant c'est un entraînement très efficace, qui va nous être utile après, en dehors des exercices de méditation. Quand vous méditez, c'est ce que des gens comme Matthieu Ricard, le moine bouddhiste, appellent un entraînement de l'esprit. On entraîne son esprit à rester centré sur le présent, à voir comment notre esprit nous attirerait bien dans des inquiétudes, dans des jugements, etc. À nous dire, pourquoi pas, c'est bien parfois d'anticiper, de juger, de repenser au passé, mais là, je veux être maître de là où je pose mon esprit. Et l'air de rien, cette méditation, c'est quelque chose qui va nous apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit, c'est-à-dire moins nous faire embarquer justement dans nos inquiétudes, dans des jugements trop négatifs sur nous-mêmes, sur les autres. Ce qu'on dit souvent, c'est que la méditation, elle apporte à ceux qui la pratiquent l'apaisement et le discernement. Il y a deux ailes à la méditation, c'est les images bouddhistes, c'est très joli, très poétique. Et donc l'apaisement, parce que c'est pour ça qu'on a longtemps présenté la méditation comme un outil de gestion du stress, ce qu'elle est, mais elle n'est pas que ça. Ça serait dommage de la considérer seulement comme ça. Ça serait comme considérer la nourriture comme un moyen d'absorber les calories. Ça peut être beaucoup plus quand même, la nourriture. Et aussi comme un outil de discernement, c'est-à-dire mieux comprendre comment je fonctionne, comment je me précipite dans certaines erreurs, comment je suis parfois injuste, impartial avec moi, avec les autres. Et donc, sur toutes ces questions d'équilibre intérieur, de rapport à soi, de rapport aux autres, la méditation a apporté quelque chose de précieux pour reconnecter à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'on a compris que parfois, nos façons habituelles de faire, me donner un objectif et puis de toutes mes forces, m'efforcer de l'atteindre, et puis quand ça ne va pas, forcer encore plus et encore plus et encore plus, mais parfois c'était le meilleur moyen pour ne pas l'atteindre. Parfois c'était bien, hein, parfois il faut s'accrocher, passer en force et tout, mais à d'autres moments, l'attitude la plus intelligente, c'est de se dire, là ça passe pas, donc tu te poses, tu te reposes, tu médites un peu, soit avant d'y retourner, soit avant de comprendre qu'il y a peut-être un autre chemin. Il y a un adage dans le zen qui est très beau, qui dit, la méditation zen, qui dit « Celui qui a atteint son but a manqué tout le reste ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'atteindre son but, hein, je suis comme tout le monde, j'adore atteindre mon but, mais parfois on n'y arrive pas, et quand on n'y arrive pas et qu'on se le permet, qu'on s'y autorise et qu'on observe pourquoi on n'y est pas arrivé, dans quel état ça nous met, qu'est-ce que ça déclenche en nous, on voit tout le reste, on voit peut-être pourquoi ça n'a pas marché, quelles seraient les autres façons de faire, etc. Donc c'est un peu déconcertant, la méditation à première vue, parce que voilà, les enseignants vont tous vous dire, enfin moi le premier, hein, si vous asseyez pour méditer, il ne faut pas le faire avec un but précis. Faut méditer pour méditer, juste voir ce qui se passe quand vous méditez. Et si des conséquences favorables doivent arriver, elles arriveront. Ça, c'est pas très entreprise comme raisonnement. Faites le truc et vous verrez bien ce qui se passe. Mais indirectement, c'est pas un hasard quand même, je crois, si beaucoup de personnes dans le monde de l'entreprise, de quel que soit le niveau hiérarchique, vont voir un peu ce qui se passe de ce côté-là.
Alors vous faites partie justement des gens qui ont permis cette popularisation de la méditation en France, notamment avec ce livre « Méditer jour après jour » qui est paru en 2011. Aujourd'hui, donc, à un certain recul, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça peut vraiment apporter quelque chose ?
Je crois qu'il y a des deux. C'est-à-dire, le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est friand des nouveautés. Que ce soit les gadgets en termes de management, les gadgets en termes de développement personnel, donc c'est logique. Dans le monde de la science aussi, il y a des modes. Hein. Il y a une mode de la méditation dans les travaux de recherche en neurobiologie, en neuroimagerie. Bon, voilà. Donc, il y a une mode qui n'était pas forcément toujours sincère. Quoi. Au fond, on proposait des stages de méditation comme ça, puisque les gens le demandaient. Après tout, ça ne faisait pas de mal. Du yoga, alors à un moment, il y avait la mode du saut à l'élastique, la mode de la marche sur les braises. Bon, c'est comme ça, quoi. Notre société est comme ça, notre esprit est comme ça. On aime bien les trucs nouveaux pour tester. Mais je crois que là, on rentre dans une autre phase où on voit des choses plus intéressantes se produire avec des managers qui sont sincèrement convaincus que finalement, ben, quand une équipe a appris à méditer, qu'on commence nos réunions par 2-3 minutes où on se pose, là, quand, vous savez, ces réunions où tout le monde arrive un peu, voilà, il y en a un qui était chez un client, l'autre dans une autre réunion, etc. Et que des cadres, des managers disent « Ok, donc on est tous autour de la table, parfait, donc nos corps sont autour de la table, on va y amener nos esprits maintenant. » Donc, 3 minutes de silence, on respire tranquillement, on laisse tout notre bagage avec lequel on est arrivé se poser, et on rentre dans la réunion, pas seulement avec le corps, mais aussi avec notre esprit, avec notre attention. Bon. Des petits gadgets en apparence comme ça, je crois que ça peut changer les choses quand même. Je crois que ça peut changer les choses. Hein. Avoir une sorte de culture de l'attention. Parce que ce qu'apporte la méditation de pleine conscience, c'est qu'elle est un outil fabuleux de musculation attentionnelle. Apprendre à poser mon attention sur ce que je suis en train de faire et à la détacher des adhérences, de ce que je faisais avant ou de ce que j'ai à faire après. Et notre société est malade de troubles attentionnels. Et l'entreprise, elle est comme la société. Elle héberge des gens, la plupart de bonne volonté, mais qui sont malades de troubles attentionnels, qui ont beaucoup de mal à rester centrés, à résister aux distractions, des mails, des SMS, des sollicitations multiples, encore plus quand on travaille en open space, etc. Donc je crois que sur cette dimension particulière, la méditation peut vraiment, vraiment apporter quelque chose bien au-delà du gadget.
Très bien, mais je vous remercie beaucoup Christophe André pour cet entretien. Je rappelle donc que votre dernier livre, Consolation, est paru en version illustrée fin 2022 aux éditions de l'Iconoclaste. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Courrier cadre, l'entretien.